Bonjour à toutes et à tous, troisième numéro de l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez, un nouveau programme proposé en partenariat avec l'ADAVEM de l'Aveyron. Et je suis très heureux de retrouver, comme tous les 15 jours désormais, Lucia Vintila. Bonjour Lucia.
Bonjour David.
Lucia Vintila, médiatrice familiale diplômée d'État, on le rappelle, à l'ADAVEM de l'Aveyron. On va rappeler ADAVEM, les initiales, ce que ça veut dire, Lucia.
C'est l'association départementale d'aide de victimes et médiation.
Bonjour Justine.
Bonjour David.
Justine, c'est Justine Lacombe, collègue de Lucia, elle aussi médiatrice familiale diplômée d'État à l'ADAVEM de l'Aveyron.
Tout à fait.
Au programme de cette troisième émission, l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez, aujourd'hui, le déroulé de la médiation, Lucia.
C'est ça.
On va voir tout ça ensemble, mais avant, tu vas nous faire un petit rappel.
Oui, je voudrais vous rappeler que la médiation familiale a comme objectif la préservation de liens familiaux lorsqu'un événement ou une situation l'ont fragilisé. Par exemple, les divorces, les séparations, la recomposition familiale. Et d'autres problèmes qui peuvent intervenir au sein de famille. Elle offre une alternative au recours au juge dans le règlement de litige des conflits. La médiation permet aussi de restaurer cette lien familial qui est fragilisé par le conflit. Les médiateurs ont comme rôle d'accompagner les personnes dans une démarche constructive pour prendre leur propre meilleure solution. Donc la médiation familiale permet de restaurer ce lien familial qui est fragilisé par les situations que j'ai énoncées tout à l'heure. Le médiateur familial a comme rôle d'accompagner les personnes dans une démarche constructive pour prendre leur propre meilleure solution. Je ne reviens pas de qui est le médiateur parce que tu as dit bien, mais on va rentrer maintenant en vif de sujet. Par quel moyen on peut venir en médiation? Et on a deux variantes. La médiation qui ont le nom conventionnel, c'est-à-dire que les personnes ils vont venir dans leur propre volonté en médiation. Et on a le deuxième, la médiation judiciaire. Les personnes ils sont envoyées par les juges. Dans les dernières années, ce type de médiation, ça commence à se développer de plus en plus.
Celle avec
parce qu'on a un partenariat, si vous voulez, avec les juges, avec le juge aux affaires familiales, mais le juge aux enfants aussi, qui peut envoyer en médiation des personnes.
Et la démarche volontaire, personnelle, individuelle, c'est courant ça, ça me semble
c'est,
pas...
c'est la plus courante,
ah ouais,
oui, c'est la plus courante. Les personnes souhaitent venir en médiation pour régler à l'amiable leur conflit.
D'accord.
Ils peuvent nous connaître par bouche à l'oreille, recherche internet, orientation des professionnels comme la CAF, MSA, les juristes, les avocats, des thérapeutes, assistants sociaux, n'importe qui peut l'orienter, n'importe quelle personne qui estime qu'il y a un conflit et que ce conflit, ça peut se apaiser en médiation, il peut nous orienter.
Et on rappelle que l'ADAVEM de l'Aveyron, c'est de nombreuses permanences un petit peu partout sur le département, donc il y a moyen de vous rencontrer très facilement à Rodez ou ailleurs sur le département. Et on va rappeler d'ailleurs, si tu veux bien, peut-être Justine, vos coordonnées, le moyen de vous contacter, de se rapprocher de vous, si tu as ça en tête, ou Lucia, allez-y hein.
Donc, les personnes peuvent nous contacter à contact@adavem.fr ou au numéro de téléphone qu'ils le trouvent sur Internet. Je ne le connais pas malheureusement par cœur, mais c'est très, très accessible.
Donc,
et une troisième voie, elle existe la médiation à distance. Donc, la distance, la géographie ne pose pas maintenant un problème parce qu'on s'est adapté après la période Covid. On a vu qu'on peut faire des médiations en visio, par exemple.
Ah. Ça marche bien ça.
Oui, quand on travaille avec les besoins, les attentes de personnes et avec les personnes, c'est mieux de l'avoir tête à tête, de le voir, de voir leur réaction. Mais si une personne habite en Aveyron et l'autre à Paris ou à Montpellier ou à n'importe, la distance fait que ne peut pas se déplacer, mais on peut avoir des médiations en visio.
Que ce soit dans l'un ou l'autre cas que tu as présenté, Lucia, pour la médiation familiale, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, ou encore plus conventionnelle, hein, puisque là on est dans complètement de la liberté, la volonté des participants. Ouais, mais dans tous les cas de figure, effectivement, les participants à la médiation, Justine, faut qu'ils aient envie, quoi, quand même. Hein.
Tout à fait, David. Donc c'est vrai que la base de la médiation familiale, c'est la volonté, la réelle volonté des personnes à vouloir s'engager dans la médiation familiale. Alors, donc, ma collègue a bien expliqué qu'il y avait différents moyens de rentrer en médiation, que ce soit donc de par leur propre biais, c'est-à-dire les médiations conventionnelles ou les médiations judiciaires. Dans tous les cas, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, on vient vraiment réinterroger cette volonté des personnes. C'est-à-dire que même s'ils viennent dans le cadre judiciaire, ouais, même si le juge oblige à venir en médiation familiale, ouais, on ne peut pas obliger les personnes à venir en médiation familiale.
Ah d'accord, c'est que le juge, attends, excuse-moi Justine, le juge dit, bon, il faut absolument y aller, si la personne, elle vient pas, mm-hmm, ou qu'elle vient mais qu'elle n'ouvre pas un seul instant la bouche, on peut rien faire, on n'a rien à lui dire.
Non, ça reste du consentement libre, d'accord, et éclairé de chaque personne de réellement vouloir s'investir, okay, et s'engager dans la médiation.
Et donc vous, en début d'entretien, excuse-moi Justine, vous vous assurez en quelques mots, en quelques phrases, que la personne, voilà, elle est effectivement consentante et qu'on ne l'a pas amenée, excuse-moi, avec un flingue sur la tempe.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment le premier entretien. Alors, ma collègue expliquera un peu plus qu'est-ce qui s'y passe dans ce premier entretien. Mais ce qu'on vient vraiment vérifier, c'est quel est réellement le consentement, quel est l'engagement, quelle est la volonté de chaque personne à s'engager en médiation familiale.
Et ça, quand tu le vérifies en oui ou non, ou il y a des échelles ?
C'est vraiment un échange, en fait, avec, d'accord, les personnes, vraiment questionner, savoir dans quel état émotionnel elles se situent, quels sont vraiment les besoins. C'est vraiment aller creuser avec eux la question et mettre aussi en avant le fait que c'est pas rien de venir en médiation familiale et qu'on leur demande de se mettre, entre guillemets, au travail. Je veux dire, ils vont venir, ils vont devoir, à un moment donné, amener leur situation, échanger sur leurs besoins, échanger sur leurs émotions. Donc, ça va quand même leur demander beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, c'est important d'être assuré qu'ils sont prêts aussi à ça.
Alors le consentement, parce que le consentement, bon, j'imagine que dans la plupart des cas, oui, ça peut paraître assez évident de vérifier le consentement des personnes, mais il y a peut-être des situations familiales, alors bon, on fait référence un peu à ce qu'on entend dans l'actualité, où c'est des gens sous emprise ou complètement dominés par un conjoint, une conjointe. Bon là, le consentement, c'est dur parce que la personne peut être face à une peur. Comment, enfin ouais, ça doit pas être toujours évident de s'en assurer.
En effet, c'est pas toujours évident. Nous, on fait avec le ressenti aussi, ouais, en tant que professionnel, ouais, avec l'expérience, en fonction de ce qu'on peut percevoir ou pas. On peut se tromper aussi, hein, dans tous les cas, on ne peut pas savoir.
L'erreur est humaine.
Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont arriver avec une intention, une volonté, mais qui est peut-être pas réellement la leur. Qui peut être, on va dire, engendré par quelqu'un d'autre, qui peut être amené à, justement, sous forme d'emprise, à les amener à venir et à dire qu'ils sont consentants sans forcément l'être réellement. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment aller évaluer au maximum du possible avec tous les éléments qu'on a, avec tous les outils qu'on peut avoir, nous, en termes, voilà, de médiation, de communication, d'aller vérifier ça et d'être au vigilant vraiment à ce consentement pour savoir s'il est vraiment libre et éclairé. Mmh. Et on amène vraiment les gens à être responsable dans cette démarche. C'est vraiment un travail qui... Le début du travail, il se fait vraiment là, sur ce premier entretien, de responsabiliser les gens à vraiment être dans ce travail de médiation familiale. Donc moi, je préfère dire aux gens que si vraiment ils ne sont pas prêts, que si vraiment c'est trop compliqué, en fait, ce n'est pas le but de les mettre plus en difficulté que ce qu'ils ne le sont déjà. C'est vraiment venir si ils ont la sensation de pouvoir être en capacité de vouloir améliorer la situation et d'être dans cette démarche un peu plus constructive. Voilà.
Précision très importante. Bien sûr.
Voilà, je précise juste aussi la temporalité,
oui,
qui est importante, c'est-à-dire que chacun a une temporalité différente face à une situation et c'est important de respecter la temporalité différente de chacun. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut être amenée à choisir la médiation familiale parce qu'elle est prête,
ouais,
mais l'autre personne concernée ou les autres personnes concernées peuvent ne pas être prêtes,
d'accord,
en même temps. Et donc ça, c'est vraiment important aussi à mettre en avant et à expliquer aux personnes que la temporalité de chacun n'est pas la même et que peut-être la médiation ne peut pas avoir lieu maintenant, même s'il y a un consentement vraiment d'une des deux personnes, si l'autre n'est pas prête, on ne peut pas faire la médiation, ça n'a pas d'intérêt.
Voilà. Ouais, donc un premier entretien très, très important et qui est, au-delà d'un premier entretien, une vraie introduction, une mise en situation avant de rentrer à proprement parler dans la médiation, hein, c'est ça Lucia ?
Oui, le premier entretien d'information permet de présenter le cadre aux personnes, le cadre de la médiation et aussi les principes déontologiques et d'évoquer avec eux la situation pour laquelle eux souhaitent devenir en médiation. Cet entretien d'information, ça peut se faire individuel ou en commun. D'habitude, on privilège l'individuel parce que la personne se sent plus libre en exprimation et il n'y a pas de contrainte de l'autre quand tu venais à l'emprise que peut avoir quand tu venais d'évoquer. Cet entretien d'information, ça peut durer 30-40 minutes, maximum une heure. Et moi, personnellement, je le fais en trois temps. Le premier temps, c'est un petit temps administratif, dans lequel je vais accueillir les dates de la personne, le nom, prénom et l'adresse. Et je l'explique le coût de la médiation, mais ça, on va aborder un petit peu plus tard. Mmh. En deuxième, j'accueille leur demande, pourquoi elles souhaitent venir en médiation, quelle est la situation actuelle. Je fais un peu le parcours de vie, mais très, très succincte. En troisième, je l'explique le cadre de la médiation et je pose les règles. Je l'explique que la médiation familiale s'assurante sur deux axes principaux. Première, c'est la communication. Si entre les deux personnes, la communication elle est empêchée, elle n'est pas fluide, il existe des conflits. On est là pour les accompagner, pour résoudre le conflit, pour le désamorcer, pour l'apaiser. Et deuxième, c'est l'autorité parentale. Et quand on parle d'autorité parentale, on parle de lieu de résidence d'enfant. Ça, c'est un sujet qui est très, très, très demandé en médiation. Le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. La contribution à l'éducation et l'entretien d'enfant, donc plus simple, la pension alimentaire, mais toutes les dépenses qui se jouent autour de leur enfant. Je l'explique aussi quel est mon rôle, c'est d'accompagner, donc bien souligner, accompagner les personnes dans une démarche constructive pour trouver leur propre meilleure solution. Donc on n'est pas là pour donner des solutions, pour les juger, pour trouver nous la solution que peut le convenir à eux. Le cadre de la médiation apporte aussi la confidentialité orale et écrite. Moi comme médiateur, je suis tenu par la confidentialité, je ne peux pas divulguer à l'extérieur les éléments qui sortent en médiation. Eux aussi, ils sont tenus par la confidentialité. Ils ne peuvent pas sortir à l'extérieur ou aller à la police, faire une main courante, une plainte en utilisant cette information. Parce qu'on sait bien, le contentieux, il n'est pas compatible avec l'amiable est la médiation familiale. Après, je l'explique aussi ma posture de neutre, un tiers neutre et impartiel. Je ne vais pas tenir parti ni avec madame ni avec monsieur. Je suis là pour lui offrir cet espace qui est sécurisant. C'est un espace de parole, d'écoute, de réflexion. Et j'essaie d'établir une équité entre les personnes.
L'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes, c'est désormais tous les 15 jours, troisième émission. Cette semaine avec Lucia Ventila et Justine Lacombe, médiatrice familiale à l'ADAVEM de l'Aveyron, médiatrice familiale diplômée d'État, je le rappelle. Cette émission, c'est sur le thème le déroulé de la médiation. Cette semaine, on va poursuivre, bien sûr, avec d'autres informations que tu as évoquées, Lucia et toi aussi, et Justine, dans la deuxième partie. Mais avant sa petite pause musicale, comme traditionnellement dans cette émission, de la musique choisie par Lucia, puisque Justine me montre Lucia des doigts, elle doit pas être très fière de ce titre qu'on va, que Lucia a choisi. Qu'est-ce qu'on va écouter, Lucia ?
On va écouter My Way, si c'est possible.
Ah bah oui, c'est possible. My Way, Claude François, ou My Way, Frank Sinatra, ou je sais pas qu'il y a eu d'autres encore, My Way.
Elvis Presley, si toi.
And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived, life is full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. I've laughed and cried. my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, no, not me, I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the word he truly feels. And not the word the world reveals. The record shows
CFM Rhodes, l'ABC de la médiation familiale, deuxième partie avec Lucia Ventila et Justine Lacombe, médiatrice familiale à la DAVEM de l'Aveyron. Le déroulé de la médiation, c'est le thème. Cette semaine, dans cette émission, on voit tout ça ensemble et Justine, on va poursuivre. Hein. On a bien insisté sur le consentement des participants. Pour qu'ils soient consentants, il faut qu'ils soient invités à venir ou qu'on leur ordonne de venir. Mais tout ça aussi, ça se travaille.
Tout à fait. Alors du coup, on a déjà un peu expliqué tout à l'heure les voies de rentrée et le consentement des personnes. Donc l'entretien d'information, comme l'a dit ma collègue, peut se faire directement avec l'ensemble des personnes concernées ou d'abord individuellement avec une seule personne en fonction du coup de la situation et de la demande. Mm-hmm. Dans le cas où une seule personne vient et souhaite inviter l'autre personne à venir en médiation familiale, il ne sait pas comment faire. Ouais. Ce premier entretien permet aussi de traiter ça, en fait, de réfléchir ensemble à comment inviter l'autre personne à venir en médiation familiale.
D'accord.
Donc, comme je disais tout à l'heure, on travaille sur la responsabilisation des personnes à venir en médiation familiale. Donc, le début de la responsabilisation, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'on favorise le fait que la personne qui soit demandeuse de la médiation familiale invite l'autre personne à venir en médiation familiale. Mmh. Si c'est possible pour elle, on réfléchit à comment ça se met en place. Donc, en fonction de la situation, on va pouvoir peut-être préparer le SMS ensemble s'ils veulent le faire par SMS. S'ils veulent le faire par mail, on peut préparer le mail ensemble avec le contenu pour réfléchir aux formulations de phrases. Moi, j'ai pu accompagner une personne qui voulait écrire une lettre à l'autre personne. Et donc, elle avait besoin de développer dans sa lettre ses besoins, ses attentes, mais sans être attaquant, sans être dans un jugement. Mmh. Donc la personne a d'abord travaillé cette lettre, elle est revenue en médiation et on a regardé ensemble le contenu de la lettre pour voir si ça pouvait être correct comme ça, si ça pouvait être justement favorable pour inviter l'autre personne ou si ça pouvait mettre en difficulté la rentrée en médiation familiale. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se travailler à travers les premiers entretiens. Et si jamais, du coup, la personne n'est vraiment pas dans cette capacité d'inviter l'autre personne, à ce moment-là, nous, en tant que médiateurs, on peut prendre le relais. D'accord. Alors ça dépend de la pratique des médiateurs. Il y a certains qui se le refusent, d'autres qui le font. Moi, avec le temps, je le fais un petit peu différemment, dans le sens que maintenant, je demande aux personnes, par contre, d'informer l'autre personne qu'il va être invité, qu'il va être contacté par moi.
D'accord.
Voilà, pour que la personne ne soit pas prise au dépourvu dans la situation. De manière générale, ça peut se faire comme ça. Il y a des situations où par contre le lien est tellement rompu et tellement qu'il n'y a plus du tout de lien en fait, que dans ces cas-là, il n'y a pas cette possibilité d'informer l'autre personne que je vais contacter. Mais au maximum du possible, je mets les personnes responsables dans cette démarche.
C'est important, c'est un des principes de la médiation, comme vous nous le dites depuis le début de cette émission. Lucia, on va s'intéresser avec toi maintenant, tu l'as évoqué un petit peu dans la première partie d'émission. Oui, ces séances, notamment leur durée puis leur coût, puisque tu as parlé d'un coût, rassure-nous.
Je vous assure. Donc, chaque médiation a un coût. Après, ça dépend le montant. Si on exerce la médiation dans une structure conventionnée par la CAF ou en libéral.
Mm-hmm. Donc, vous êtes conventionné par la CAF.
Nous, on est conventionné par la CAF, MSA et le département. Donc, la médiation, ça rend accessible pour tout le monde. Par exemple, une personne qui a un revenu au niveau de RSA, 480 euros, chez nous, elle va payer les séances de médiation autour de 2 euros. D'accord,
d'accord.
Autour de SMIC, c'est 5 euros. Et après, c'est progressif jusqu'à 131 euros au maximum de revenus de 5 000 euros.
D'accord, c'est en fonction des revenus.
D'accord. Dans, okay. Dans cette structure conventionnée chez nous, l'entretien d'information, donc le premier rendez-vous, il est gratuit, il est financé par la CAF. Mais après, les séances sont payées selon cette barème CAF que je viens d'évoquer. Et chaque partie, on doit savoir que chaque partie paye sa séance exactement en fonction de ses revenus. Après, en libéral, le médiateur, il est libre de faire ses tarifs. L'entretien d'information, il coûte. Je ne peux pas vous donner, je ne veux pas me lancer à vous donner des prix parce que c'est la latitude de chaque médiateur. Et en sachant que s'il y a des personnes en difficulté, elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Très bien, c'est noté. Donc, qui prend en charge, du coup, ses coûts. Pour la durée des séances et le nombre de séances, là, comment ça fonctionne?
Concernant la durée des séances, la médiation, c'est un procédé court, donc on n'est pas sur une thérapie de une année, deux années ou je ne sais pas combien de mois. Donc, c'est un procédé court qui dure entre 2 à 6 séances. Chaque séance, ça dure environ 1h30, 2h, ça dépend de la complexité, de le sujet, des personnes aussi, s'ils sont très bavards, s'ils ont envie de déballer leur sac, quels sont leurs besoins. Et donc, en 2 à 3 séances, c'est en général. En général, la médiation peut se finir en 3-4 séances avec des accords, mais ma collègue, elle va vous annoncer plus sur les accords et la fin de la médiation.
Ouais, parce qu'effectivement, donc la fin de toute chose a une fin. Les médiations aussi, hein. Mais donc elle n'est pas fixe. C'est en fonction de la situation, le nombre de séances. Mais à un moment donné, Justine, tu dis maintenant. C'est bon. Enfin, tu dis maintenant ça suffit ou maintenant on arrête. Ou, je ne sais pas ce que tu dis, mais à un moment donné, il y a une fin.
Alors, en effet, il y a un début et il y a une fin. L'arrêt de la médiation, en fait, il peut se faire à n'importe quel moment et par n'importe qui. Voilà, ça, c'est la base aussi de la médiation familiale. C'est-à-dire que autant les personnes dans l'espace de médiation peuvent stopper la médiation familiale pour les raisons qui leur appartiennent.
Toujours lié au consentement, ils peuvent partir en cours de route.
Tout à fait. On ne leur demande pas forcément les raisons. Si elles peuvent être évoquées, c'est mieux, ça permet de clôturer, mais ce n'est pas forcément obligatoire, en tout cas, de le faire.
D'accord.
On demande juste aux personnes, en tout cas, de formuler cet arrêt et ce besoin d'arrêter la médiation pour clôturer.
Excuse-moi de te couper, Justine. Alors, ça veut dire formuler, ça veut dire que quelqu'un qui ne vient pas au rendez-vous, qui fait le mort, comme on dit, non, ça ne vous aimez pas. Vous, ce qu'il vous faut, c'est au moins quelqu'un qui vous dit au téléphone, écoutez, j'arrête, je veux plus venir. Il faut une expression.
C'est important de clôturer à un moment donné et pas laisser un flou comme ça, est-ce que ça continue, est-ce que ça continue pas. Voilà, c'est important d'aller jusqu'au bout et de clôturer cet espace-là, qui peut être réouvert après. Hein. Ça ne veut pas dire que les personnes ne peuvent pas revenir plus tard.
Tu fais bien de le
dire. Important en tout cas de le clôturer à ce moment-là si les personnes ne sont pas en capacité de continuer. Voilà, après il peut y avoir plein de raisons qui spécifient l'arrêt de la médiation. Ça peut être parce que c'est trop compliqué pour eux émotionnellement, ils sont pas disponibles, ils ont pas envie de mettre l'énergie dans cet espace-là, ils ont l'impression que l'espace est pas adapté à leur situation, ils ont l'impression de tourner en rond. Voilà, il peut y avoir vraiment plein de raisons expliquées, argumentées, justifiées de leur part.
Quand quelqu'un veut s'arrêter et que à la limite toi tu considères que c'est son choix, mais t'aurais peut-être pas fait le même, t'essayes de discuter, de négocier un peu ou pas, ou tu prends acte?
Alors, négocier pas forcément. Moi, je leur fais un retour éventuellement. Je peux dire, j'entends votre besoin d'arrêter. On peut faire un petit peu un bilan éventuellement de comment s'est passée la médiation familiale, des évolutions, de ce qui a bougé en eux, de la situation. Et laisser ouvert toujours. Voilà, moi, j'entends en fait leur besoin, je le respecte. Je leur précise bien que je respecte en fait leur arrêt, qui n'est pas forcément commun, qui peut venir que d'une seule personne. Mais dans tous les cas, on ne peut pas continuer s'il y en a une qui ne veut plus. Et après, toujours avec cette perspective de si vous avez besoin de revenir, vous pouvez revenir. Vous savez nous contacter et vous pouvez revenir en médiation à tout moment.
D'accord. Voilà. Et donc, à chaque fois, même quand ça se termine un petit peu plus tôt que prévu à la demande de l'un ou de l'autre participant de la médiation familiale, il y a quand même un petit bilan, une petite conclusion, un petit, entre guillemets, rapport.
Au maximum du possible, on essaie de faire un petit bilan. Après, il y a des situations où ce n'est pas possible, parce que l'arrêt ne se fait pas en médiation, il se fait entre deux séances, donc ce n'est pas forcément évident. Mais quand c'est possible, en tout cas, on le fait. Ça peut être aussi des personnes qui n'adhèrent pas avec le professionnel.
C'est pas forcément
l'espace de médiation, c'est avec le professionnel, comme toute personne qui va aller voir un thérapeute à l'extérieur qui peut ne pas adhérer avec le professionnel. Donc ça, c'est important. Moi, je le précise beaucoup aussi dans l'entretien d'information, en disant qu'ils ont le droit, en fait, de pas forcément...
Voilà, si vous entendez pas avec moi, j'ai une collègue.
Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, il y a une possibilité de passage de relais. C'est important de leur dire aussi, pour qu'ils se sentent à l'aise avec ça.
Très bien.
Après, il y a aussi nous, en tant que médiateurs, on peut arrêter si on a la sensation en fait que l'espace n'est pas adapté, hein, pour les mêmes raisons aussi, hein, dans l'autre sens, ou qu'on a la sensation qu'il y a une emprise ou des jeux relationnels ou des jeux psychologiques qui se jouent et qui du coup mettent en difficulté les personnes plus qu'autre chose. Donc, c'est de notre devoir aussi de repérer ça et d'arrêter en fait, de pas finalement continuer de rentrer finalement dans une forme de jeu avec eux ou d'instrumentalisation avec des alliances. Hein. Il peut y avoir aussi des alliances, on peut être pris au parti dans des situations. Donc, c'est vraiment important de repérer aussi tous ces enjeux relationnels et psychologiques qui peuvent être mis en place, qui ne sont pas évidents à repérer, mais qui sont nécessaires, nous, d'avoir ce recul-là en tant que professionnel pour ne pas mettre en difficulté la situation et les personnes. Voilà.
L'ABC de la médiation.
Je complète juste par rapport à la fin, on le fera sur une autre émission. Il y a la possibilité de rédiger des accords. Avec les personnes, si elles arrivent à mettre en place une décision, si elles arrivent à formuler des décisions ensemble, il y a la possibilité d'écrire des accords avec eux.
Je ne vais pas
rentrer dans le détail là parce qu'on fera une autre séance sur ça, mais c'est juste pour dire que la médiation peut s'arrêter parce que les personnes n'ont pas envie de continuer, mais ça peut s'arrêter aussi parce que les personnes sont arrivées au bout de leur cheminement et avec des accords ou pas des accords, écrits, oraux, enfin il y a plusieurs possibilités en tout cas de clôturer et de finir la médiation familiale. C'est pas forcément parce que ce n'est plus adapté ou ce n'est plus possible, c'est parce qu'aussi les personnes sont arrivées au bout de leur cheminement, au bout de leur accompagnement qu'elles avaient besoin.
Et nous aussi, on va clôturer pour aujourd'hui, en tout cas, l'ABC de la médiation familiale avec la DAVEM de l'Aveyron. Troisième émission cette semaine. C'était donc le déroulé de la médiation familiale. Merci beaucoup, Lucia Vintila.
Merci, David.
Merci, Justine Lacombe. Toutes les deux, je le rappelle, médiatrice familiale à la DAVEM de l'Aveyron. On se retrouve avec plaisir dans 15 jours pour quatrième rendez-vous. L'ABC de la médiation familiale, la thématique, le thème, le titre du prochain rendez-vous.
L'utilité de la médiation. On va continuer un petit peu qu'est-ce qu'elle a commencé, Justine, à dire sur la médiation, les bénéfices et l'utilité.
À dans 15 jours, mesdames, on se quitte en musique.
À bientôt.
Avec un titre que vous avez une nouvelle fois choisi, c'est toi, Lucia ?
C'est moi aussi, oui.
C'est quoi ?
Ça ne me dérange pas, j'adore la musique. Oui. Ça sera Gold avec Captain Abandonné.
Oh oui, merci beaucoup, Lucia. Bonne journée. Ciao, ciao.
À toi aussi.